Vous écoutez
RMC. RMC.
7h-8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian PC.
Le retour de ce week-end, les experts, 7h10. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Avec au menu tout à l'heure entre 9h et 10h, un invité exceptionnel dans notre rendez-vous vie numérique avec Raphaël Grabli. Nous recevrons le président de l'ARCEP. L'ARCEP qui est le gendarme des télécoms. Et avec le président de l'ARCEP, nous nous intéresserons en fait à la qualité de l'Internet en France, le haut débit, qu'il soit fixe avec la fibre optique, avec la 4G, bientôt la 5G. On parlera aussi des zones blanches et bien sûr, vous pourrez poser toutes vos questions au président de l'ARCEP tout à l'heure entre 9 et 10. Christian Riquet sera là entre 8 et 9 pour notre rendez-vous forme santé. On évoquera le mal de dos, les contractures, les déchirures musculaires, etc. Comment lutter contre les douleurs musculaires? Ce sera tout à l'heure. Mais dans l'immédiat et jusqu'à 8 heures, après le jardin, c'est la maison et c'est avec Christian PC.
Eh bien, bonjour, mon cher François.
Monsieur PC, bienvenue. Alors, tout à l'heure, on rebondira sur l'actualité et se poser la question suivante. Que faire quand notre maison a été inondée, et oui, au-delà du fait que c'est un vrai drame,
hein. Et oui, il y a véritablement là encore une répétition dans le sud-est. Une nouvelle fois, des milliers de maisons, peut-être même des dizaines de milliers de maisons, ont été impactées par des inondations. Alors on verra quelle procédure pour déclarer le sinistre à l'assurance, comment assainir, décontaminer, assécher la maison, quelles conséquences sur le bâti. Et on s'interrogera, est-ce qu'on peut encore, est-ce qu'on est autorisé à construire en zone inondable, et est-ce que c'est bien sérieux?
On verra ça tout à l'heure. Vous voulez témoigner parce que vous avez été victime d'inondation ces derniers jours. Et Dieu sait, comme le disait Christian, vous avez été nombreux. N'hésitez pas, 3216, l'appli RMC Direct Studio sur votre smartphone. Vous nous laissez votre numéro de téléphone, on peut vous rappeler dans les minutes qui viennent. Durant le mois qui vient, on va parler de gaz aussi, hein, Christian.
Oui, on va parler de gaz, on va parler installation du gaz, parce que le gaz est la seconde énergie préférée des Français. Il y a un Français sur quatre à peu près qui se chauffe au gaz. Donc on fera le point notamment sur les conditions de sécurité, d'installation, et je commencerai par parler un petit peu du gaz et des Français. Depuis l'histoire, on a oublié, par exemple, que le gaz, pendant une longue période, ça servait essentiellement à s'éclairer.
Tiens, et oui, pas, les lampes à gaz, évidemment, avant
oui, les becs de gaz. Alors, c'était concomitant, il y avait l'électricité, mais il y avait le gaz
aussi. D'accord. Voilà. On verra ça tout à l'heure. Et puis, donc, je le disais, vos questions au 3216. Notre conseil de l'expert aussi, dans quelques instants. Bien ventiler la maison pendant la saison de chauffe, évidemment. Oui, ça aussi, c'est un geste
très important
à avoir. On va vous expliquer pourquoi dans une minute. Mais auparavant, sur RMC, on commence ce week-end des experts avec vos questions. Et c'est David qui est là.
Oui, bonjour François, question.
Bonjour David, bonjour, bienvenue David. Sur RMC.
Merci.
Vous êtes en Haute-Garonne, hein, c'est ça. Hein.
Voilà, tout à fait, à côté de Toulouse.
Et on vous écoute.
Donc voilà, j'ai une maison, je suis propriétaire d'une maison qui est équipée d'un chauffage au sol installé sous du carrelage. Ouais. Et ma question, c'est de savoir s'il est possible pour cacher ce carrelage de mettre du béton ciré.
Il est toujours possible de tout faire pour cacher quelque chose, mais en l'occurrence, je vois mal la chose. Je veux dire pourquoi, c'est que de toute façon, le béton ciré, qui en fait n'est qu'un revêtement de quelques dixièmes de millimètre d'épaisseur, d'abord il va falloir que ça accroche, donc ça veut dire déjà des précautions particulières, peut-être d'ailleurs dépolir le carrelage, faire un ragréage parce que il y a des joints, donc sinon ça va ressortir, et à partir du ragréage couler une fine couche de béton ciré, qui en fait n'a de béton que le nom. En fait, c'est une forme de mortier, alors avec des résines, enfin ça dépend des solutions, mais le fait que ce soit en plus un plancher chauffant va faire que la maladie classique du béton ciré, c'est les micro-fissurations. Donc votre béton ciré, il va fissurer de partout. Enfin, c'est mon opinion. Donc, Moi, je vous le déconseille, sauf à faire alors carrément une chape sur votre carrelage ou enlever le carrelage. Mais comme vous avez un plancher chauffant, c'est un plancher chauffant à eau.
Oui.
Donc, ça va être très difficile d'enlever le carrelage parce que évidemment, on risque de la même façon, par la même occasion, d'enlever une partie de la chape elle-même actuelle et donc de risquer des perforations au niveau du carrelage. Vous vous engagez dans une sérieuse galère. Voilà.
Bon, alors, je vais peut-être pas m'engager, alors.
Moi, je le ferai pas. Hein. Moi, je le jouerai pas, d'autant que vous avez des surfaces importantes. Oui. Donc, il y a aussi la nécessité d'avoir des joints de dilatation. Si on fait une chape réelle dessus, c'est vraiment, vous allez entrer dans un très très gros boulot. En revanche, ce que vous pouvez peut-être faire, j'ai déjà donné ce conseil la semaine dernière, c'est trouver un carrelage grand carreau, grand panneau qui imite le béton ciré et le recoller sur votre carrelage existant. Il faut qu'il soit le plus mince possible pour perdre le moins possible de chaleur, de dégagement, donc puisque là on marche par rayonnement essentiellement pour le chauffage au sol.
D'accord.
Si vraiment vous ne pouvez pas voir en peinture votre carrelage, c'est la meilleure solution, puisque en plus on a aujourd'hui des carrelages qui imitent à peu près tout, y compris le parquet, y compris donc peut-être l'effet béton ciré. Voilà ce que
je prends. D'accord, merci pour vos conseils.
Ben, je vous en prie.
Merci David.
Merci beaucoup.
Et si tout
merci pour votre émission.
Bah, c'est très gentil à vous. Merci de nous écouter. Et si tout comme David, vous voulez joindre Christian PC, profitez-en. Il est là jusqu'à 8 heures. Après, il rentre chez lui.
Donc, oui.
Voilà, bien sûr. Oui. Hein, il va acheter quelques croissants.
Un petit café.
Voilà. Faire une bise à Annie, qui vous attend aussi, votre femme.
Voilà.
Donc, mais auparavant, il est ici. Donc,
j'aimerais bien un petit peu de soleil si vous pouviez faire un effort. Parle au grand architecte de l'univers.
Ah, d'accord. Oui. Vous pensez qu'il nous capte?
Oui, je pense. Un petit peu de soleil, parce que comme ça, je pourrais aller au bord de la mer.
Très bien. 32-16, l'appli RMC Direct Studio pour joindre Christian. Donc, jusqu'à 8h. Tout de suite, c'est votre conseil de la semaine.
RMC, votre maison.
Le conseil béton.
Béton.
De Christian Pesset.
Alors Christian, il faut ventiler la maison.
Eh oui, pendant la saison de chauffe, parce qu'avec justement la remise en marche du chauffage, on est tenté évidemment de tout calfeutrer. Hein, on est tenté d'empêcher le froid d'entrer lorsqu'il y a encore quelques ventilations, on va dire, naturelles. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, comme la maison est de plus en plus étanche, eh bien on va avoir une saturation de vapeur d'eau. On va avoir, si la maison n'est pas très bien isolée, on va avoir des phénomènes de condensation. Et puis moisissure, pathologie respiratoire pour les occupants. On verra tout à l'heure que c'est aussi une des problématiques lorsqu'une maison a été inondée. Mais là, simplement, si on coupe toute ventilation, eh bien, on va avoir ce type de phénomène. Alors, si vous êtes dans une maison ancienne qui a encore ces petites grilles de ventilation, y compris dans la cuisine, dans les WC, eh bien, évidemment, le conseil est facile à donner, mais il ne faut pas boucher ces ventilations. Parce que si on bouche ces ventilations, eh bien, on empêche donc tout renouvellement de l'air. Alors surtout ne bouchez pas ces ventilations lorsque vous êtes dans une cuisine ou dans une salle de bain où il y a un chauffe-eau qui n'est pas en un chauffe-eau ou un chauffe-bain, une chaudière de chauffage central qui n'est pas en circuit fermé, c'est-à-dire qui n'est pas en ventouse, parce que là il y a besoin d'une ventilation haute et basse et c'est absolument essentiel pour la sécurité. Alors évidemment, dans toutes les autres pièces, c'est bien la ventilation mécanique s'impose. Surtout si vous avez fait remplacer vos fenêtres, parce que évidemment là vous avez rendu étanche, c'est parce que la ventilation elle se fait souvent simplement parce que les fenêtres sont pas étanches quoi, hein, donc on s'en rend pas compte, mais c'est ça qui permet le renouvellement. Alors la VMC c'est pas toujours possible, on peut pas toujours l'installer parce qu'il faut faire passer des gaines, il faut avoir accès par exemple au comble, donc dans certains cas eh bien on va peut-être se contenter dans un logement ancien d'extracteur d'air, extracteur d'air, tout simplement comme on le faisait autrefois. Maintenant, on a un peu abandonné cela, mais pourquoi pas? Pourquoi pas des extracteurs d'air sur les fenêtres, vous savez, comme
il y a. Donc c'est un petit rond avec le petit ventilateur.
Voilà,
c'est ça,
ventilateur. Alors bon, il y a le ventilateur qui marche tout seul, l'autogire, hein, mais il y a aussi évidemment des extracteurs qui sont motorisés, avec en plus une sonde d'humidité, un hygromètre qui fait que ça se déclenche quand le taux d'humidité devient normal, devient supérieur à la normale. Ça, c'est évidemment la méthode la plus simple. Sinon, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on met une VMC. Alors, la VMC, si on a la possibilité de l'installer, c'est un groupe de ventilation qui, alors, on parle de simple flux et double flux, vous savez. Alors, la simple flux, c'est tout simple, hein, c'est un aspirateur, en quelque sorte, qui est en toiture, qui va chercher l'air vicié dans les pièces dites techniques, c'est-à-dire la cuisine, la salle de bain, le cabinet de toilette. Il y a des ouïes dans les fenêtres ou dans les murs, et donc il y a une sorte de courant d'air qui se fait par aspiration, par mise en dépression de la maison. Mais ça a un inconvénient, c'est qu'évidemment, sur le plan thermique, bah, c'est pas fameux. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a inventé la double flux. La double flux, c'est pareil, c'est un groupe qu'on met dans les combles, mais qui va aspirer l'air frais, entre guillemets, frais au sens pas pollué du terme, oui, puisqu'à l'intérieur, c'est plus pollué qu'à l'extérieur, et qui va donc aspirer l'air et le faire sortir également. C'est un groupe en échange. Et il y a un avantage, là, c'est qu'il y a un échangeur thermique qui fait que vous aspirez de l'air froid, mais qui se réchauffe au contact de l'air vicié qui est chaud et qui s'échappe de la maison. Si ça, c'est pas possible, on a aussi une solution, c'est ce qu'on appelle la VMI, ventilation mécanique par insufflation. Là, qu'est-ce qu'on a? On met un groupe qui puise de l'air, qui le réchauffe en toiture, qui pousse l'air dans la maison, et on remet des ouïes donc dans les fenêtres ou dans les murs, mais cette fois à l'inverse des précédentes. C'est-à-dire, ce sont des ouïes faites pour laisser sortir l'air. Et il faut faire attention, il faut détalonner les portes à l'intérieur de la maison pour que le courant d'air puisse passer en dessous des portes. C'est une solution, je dirais, aléatoire. La maison, là, est mise véritablement en surpression et pas en dépression. Attention, tous ces systèmes doivent fonctionner en permanence, en continu. On n'arrête pas une VMC, mais surtout l'hiver, quand il fait froid et humide, on laisse tourner sa VMC. Puis dernier conseil, eh bien, tous ces systèmes doivent être entretenus et maintenu en bon état en permanence, c'est-à-dire qu'il faut que tous les ans, par exemple, on fasse soi-même, tous les mois même, on nettoie les bouches d'aspiration.
D'ailleurs, on le voit, hein, il y a comme de la suie dessus, c'est incroyable.
Et je plaide depuis des années pour que on ait une obligation de nettoyage des conduits. Je vais peut-être y arriver un jour. C'est essentiel. Et là, il faut des techniciens spécialisés. Il y a plusieurs syndicats professionnels, notamment le CINASAV, qui vous permettent donc d'avoir des adresses de techniciens compétents.
Voilà, important donc de chauffer sa maison, bien évidemment, mais aussi de ventiler, renouveler l'air.
C'est essentiel.
C'est très important et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Hein. Vaut mieux avoir une maison qui baisse en température avec un air plus frais et puis après vous le réchauffez que de rester comme ça dans ce vase clos. Christian, on revient dans un instant et on va bien parler des maisons inondées.
Oui.
Évidemment, on rebondit sur l'actualité malheureuse de ces derniers jours, notamment dans le Sud. Vous voulez poser vos questions et réagir sur ce sujet. On va en parler dans quelques instants. Hein, 32-16. L'appli RMC Direct Studio, à tout de suite après la météo.
La météo sur RMC avec Omiris, alarme et télésurveillance. Avec Omiris, vous êtes entre les meilleures mains. Omiris, un service opéré par EPS Agri-CNAPS.
Et la météo de ce week-end, c'est avec Claire Navarro. Bonjour Claire.
Bonjour François, bonjour à tous. Et dès ce matin, on a un ciel bien chargé sur la façade atlantique avec de la pluie et du vent qui arrivent sur la pointe bretonne. Cette perturbation qui va avancer très doucement vers l'est dans la journée pour atteindre ce soir une petite moitié ouest ailleurs à l'est du pays. C'est un peu mieux, mais quand même pas mal de nuages, du brouillard ce matin. Le soleil devrait être plus généreux cet après-midi, notamment près des frontières du nord et près de la Méditerranée et des Alpes. Là, ça va devenir nuageux, particulièrement autour du du golfe du Lion. Les températures ce matin, c'est assez frais. 0 degré relevé à Nancy, 1 degré à Lille, 6 à Paris, 8 à Bordeaux et déjà 12 à Bastia. Cet après-midi, 5 à 8 sur le Grand Est, 9 à 12 dans le Nord-Ouest, 11 à 15 dans le Sud, avec des pointes jusqu'à 19 dans les Pyrénées et en Corse.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison. 3216 touche 1.
Pour poser toutes vos questions sur RMC,
à notre expert maison, Christian Pesset.
RMC.
7h-8h.
Votre maison, François Sorel.
Christian Pesset.
7h27, le retour de ce week-end des experts, la maison avec Christian Pesset. Tout à l'heure, on retrouvera notre mois du gaz. Pendant les semaines qui viennent, on va évoquer cette énergie qui a pas mal d'atouts, hein, Christian. Et on va commencer peut-être par l'histoire du gaz.
Hein, on va commencer un peu par l'histoire du gaz par rapport donc aux Français. Depuis quand ils se chauffent ainsi et puis quelles sont déjà les précautions de base à prendre.
Mais avant tout cela, bien sûr, on va retrouver notre dossier de ce samedi matin et on va parler des maisons inondées.
Eh oui, les maisons ont été inondées dans plusieurs régions de France, il y a le sud-est, mais on a vu qu'en Bretagne, il y en avait eu également une nouvelle fois, des milliers de maisons ont été touchées, ont été inondées. Alors on va se demander quelles précautions prendre, quelles procédures pour déclarer à l'assurance, comment assainir, décontaminer, etc. Et nous avons avec nous Stéphane Cancella, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant de la société Unipromotion, Hop, comme on dit aujourd'hui, c'est ça?
Oui, Hop, effectivement, qui est une contraction de Unipromotion, se lever, se remettre debout.
Ok. Vous êtes déjà venu d'ailleurs nous rendre visite il y a quelques années. Avant d'entrer dans le vif du sujet du traitement de la maison qui a été inondée, en quelques mots, je vais rappeler que une fois lorsqu'on a subi ce genre de dégâts dans des conditions aussi importantes que celles qu'on a vues dans le sud-est, la première des choses à faire, hein, c'est de surveiller la déclaration d'état de catastrophe naturelle. Je ne cesse de râler sur le fait que à partir de ce moment-là, il faut 10 jours pour déclarer son sinistre à l'assurance.
Parce que si on dépasse le délai, c'est terminé.
Eh ben c'est terminé. Donc là, il faut être véritablement très attentif aux déclarations qui normalement sont affichées en mairie. Il faut vraiment surveiller ça comme le lait sur le gaz, hein, c'est le cas de le dire, parce que sinon on risque de se faire avoir. Alors à partir de là, de toute façon, il faut effectivement préserver tout ce qui peut l'être. Justement, on va en parler tout de suite, mettre la maison en sécurité pour que les dégâts ne s'aggravent pas. Il y a une obligation de maintien des lieux au meilleur état que cela peut être, et puis garder le maximum de choses, faire des photos, éventuellement mettre des objets qui ont été abîmés, des équipements, pourquoi pas la bâche dans la cour ou dans le jardin, si on est donc en maison individuelle, ce sont les bonnes précautions. Alors on va surtout parler technique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'effectivement il faut faire pour préserver son bien et pouvoir ensuite le rénover. Alors il y a des sociétés, des entreprises spécialisées comme celle de Stéphane Cancella. Vous êtes donc spécialisé, qu'est-ce qu'on peut dire, dans la décontamination. J'aime peut-être pas, c'est peut-être pas le mot, mais qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite et dans les semaines qui vont suivre le retrait des eaux.
Nous sommes spécialisés dans l'après-sinistre. Ici, nous parlons d'eau, puisqu'il s'agit d'inondation. Nous intervenons aussi, évidemment, après des incendies. Le mot de décontamination est plutôt utilisé en cas d'incendie.
Oui.
En cas d'inondation, nous parlerons plutôt d'assainissement, d'assèchement et de remise en état.
D'accord. Donc immédiatement, il faut faire quoi? On a l'eau qui s'est retirée, il y a de la boue, beaucoup de choses sont abîmées. Quelle est la première des choses qu'il faut faire?
Alors, en tant qu'assuré et atteint par ces inondations, si on a la chance d'être informé, il faut te prévenir, remonter, mettre sur des hauteurs, ce qui est sensible.
Ce qui a pu l'être déjà quand on a été informé de l'inondation, quoi.
Oui.
Les parpaings, mettre ses meubles dessus, monter à l'étage, c'est ça
hein, des archives, éventuellement, et ça c'est vraiment préconisé par des informations, des compagnies d'assurance, couper l'électricité ou le gaz. Bref, se mettre en sécurité et puis surtout se mettre en sécurité soi-même.
Oui, alors l'eau, ça se fait, pas l'eau, mais l'électricité, ça se fait, j'allais dire tout seul, parce que j'imagine que le compteur disjoncte normalement. Donc, mais malgré tout, si ça n'est pas arrivé, ou avant que l'inondation arrive, il faut couper le courant.
Dans la mesure du possible, effectivement, couper le courant, c'est aussi se mettre en
dans
sécurité
le noir.
Soi-même.
Oui, mais c'est se mettre dans le noir aussi. Donc, il faut prévoir la nécessité aussi d'avoir de l'énergie. C'est les bougies, peut-être le plus simple encore.
Peut-être. Effectivement, encore faut-il pouvoir les allumer si les allumettes sont sèches.
Une bonne lampe torche. Il faut faire une bonne lampe torche. C'est encore le meilleur. Hein. Attention aux groupes électrogènes. On a encore eu des accidents qui se sont passés. Les groupes électrogènes. Donc, ils fonctionnent effectivement avec de l'essence pour la plupart, les gros avec du fioul. Ne pas les faire fonctionner en milieu confiné, hein, y compris dans le garage, parce que on peut avoir des infiltrations de CO. Ça peut être extrêmement.
Donc, il faut le mettre dehors.
Il faut qu'il soit dehors, éventuellement avec un petit abri, mais il faut qu'il soit dehors. Alors là, maintenant, l'eau s'est retirée. Ben on va entrer dans l'assèchement. Alors, comment vous asséchez une maison? Parce que si on la laisse comme ça, simplement à l'air libre, il va falloir des mois pour que ça soit asséché. Donc, vous avez des techniques, j'imagine.
Alors, effectivement, nous avons des techniques. Je dirais que la première technique, c'est d'intervenir très rapidement. Et d'ailleurs, nos mandants, que sont les compagnies d'assurance, insistent sur la réactivité que nous devons avoir, puisque on parle de biens, on parle de contenu et on parle de bâtiments. Ce sont deux choses qui se traitent distinctement. Le bien, comme le meuble, comme l'archive, comme le document, comme la chanifie, peuvent être sauvés, il faut aller vite. Le bâtiment, c'est des techniques d'assèchement que nous mettons en œuvre pour essayer d'aller vite pour sauver. Autrement dit, un doublage BA13 avec de l'isolant,
plaque de plâtre, donc.
Par exemple, plaque de plâtre, peut être sauvé à travers des techniques d'insufflation d'air sec dans les isolants. Les planchers.
C'est-à-dire que concrètement, ça veut dire que j'ai un doublage avec de la plaque de plâtre, avec de l'isolant, par exemple de la laine de verre, de la laine de roche. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous allez faire un trou en bas et puis en haut et vous allez injecter de l'air?
Alors oui, soit le trou existe parce que, par exemple, les prises murales permettent de passer, faire passer de l'air en surpression, soit nous créons effectivement des carottages qui sont ensuite remplis au moment de la rénovation, ce qui est facile et pratique.
On imagine aussi les gros déshumidificateurs électriques. Avec quoi, vous faites quoi à ce moment-là? Vous enfermez la maison dans quoi? Dans une espèce de grosse poche? Comment ça marche?
Alors, en fait, il faut comprendre le principe de l'assèchement. Pour assécher un matériau, il faut assécher l'air qui est autour de ce matériau. En l'occurrence, l'air à l'intérieur de la maison. Pour assécher un air à l'intérieur d'une maison, il faut éviter de faire des courants d'air à partir de l'extérieur, puisqu'on ne ferait que essayer d'assécher l'air extérieur perdu. Donc, il faut effectivement fermer à partir du moment où les appareils sont en place. Mais tant que les appareils ne sont pas en place, au contraire ouvrir et ventiler un maximum l'habitation.
Et alors, vos appareils, c'est quoi? C'est de grosses machines qui aspirent l'air
La transforment en eau.
D'accord.
C'est-à-dire que l'air...
Par condensation.
Par condensation, par exemple. Alors, il y a plusieurs techniques dans les assécheurs. Il y a des déshydrateurs, des assécheurs. Donc, tout dépend de la situation, tout dépend aussi de la température dans laquelle nous travaillons. Des appareils, de façon optimale, travaillent bien aux alentours des 20 degrés d'air ambiant.
Ah oui.
Donc, il peut...
Donc, l'hiver, c'est un problème.
Alors, l'hiver, nous chauffons, en plus d'assécher, l'air des maisons.
Il faut combien de temps pour assécher une maison avec des moyens comme ça?
Tout dépend de l'impact de l'inondation. Autrement dit, si nous avons une inondation qui consiste en un passage rapide d'eau, c'est peut-être le cas lorsqu'il y a des coulées d'eau qui traversent des maisons,
ça dure 48 heures, quoi. Alors que si effectivement ça baigne pendant un mois,
exactement,
c'est pas la même chose.
Donc l'assèchement peut aller de quelques jours à quelques semaines.
Quelques jours à quelques semaines. Mais en quelques semaines, c'est bon.
Oui, en quelques semaines, nous obtenons des matériaux qui peuvent recevoir des travaux de rénovation.
D'accord. Et vous faites ce genre de choses aussi?
Nous faisons effectivement de la rénovation après les traitements d'assèchement.
Il faut qu'on soit à un niveau d'humidité de combien ?
Le support accepte entre 15 et 20% d'humidité.
Ah oui, c'est quand même très sec. Hein.
Avant de pouvoir assécher. Alors, en fait, le plus sensible sont les sols. Mmh. Puisque quand nous avons des matériaux vivants comme le bois,
ah oui,
qui ont subi des inondations, ce bois peut bouger, on appelle ça un plancher tuilé, qui se gondole. Hein. Donc effectivement, on doit assécher la chape, par exemple, qui est en dessous. Ouais. Et là, c'est très sensible.
Évidemment, tout ce qui est équipement, on va dire électrique, électronique, électroménager, etc., tout ça.
Souvent, c'est
poubelle,
fichu,
non hein.
Pas forcément. Vous pouvez, par exemple, l'électricité qui est coupée dans une maison qui vient d'avoir une inondation, c'est parce qu'il y a de l'eau qui contribue à créer des courts-circuits. Bon, cette eau s'en va.
On la sèche.
On remet le courant et très souvent cela suffit.
D'accord.
Et c'est la même chose pour un appareil, mais tout dépend du temps d'exposition.
Alors on a au téléphone qui nous attend, c'est Yves Benmalek qui est directeur technique du bureau d'études Structure Ingénierie. Bonjour Monsieur Benmalek.
Bonjour Monsieur Pessé, bonjour à tous vos invités, bonjour. Surtout à tous les auditeurs qui nous écoutent ce matin.
Alors la question que je vais vous poser, c'est est-ce qu'il est encore autorisé de reconstruire ou de construire en zone inondable? Parce que on se dit que la première des solutions, ce serait d'éviter de construire dans ces zones. Est-ce qu'il y a une interdiction de reconstruire en zone humide?
Donc aujourd'hui, la possibilité de construire en zone inondable existe déjà, mais sous certaines conditions. Donc la loi aujourd'hui, il y a la loi numéro 95 du 2 février 1995, ouais, qui est relative au renforcement de la protection de l'environnement, a créé des plans de prévention des risques naturels.
Oui,
c'est-à-dire,
bien sûr.
Je m'explique. Donc aujourd'hui, donc on a trois zones. Une des zones rouges qui a un risque très élevé.
Oui.
Aucun permis de construire pour construction nouvelle ne peut être délivré, même par dérogation.
D'accord, donc là, c'est classé, on ne peut plus construire.
Exactement. Après, on a les zones qui sont à risque moyen, où le permis de construire est assorti de conditions, et les zones qui sont sans risque, où le permis de construire est soumis aux règles des plans de locaux d'urbanisme.
Mais alors, dans une zone qui n'est pas une zone rouge, donc qui peut être malgré tout inondée, on pense notamment au bord de grands fleuves, comme au bord de Seine, au bord de Marne, etc.
Exactement.
Quelles sont les précautions, c'est-à-dire quelles sont les prescriptions constructives, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir construire ou reconstruire une maison dans ces zones?
Bah, techniquement, donc il y a plusieurs conceptions qu'on peut envisager, mais ça dépend de plusieurs paramètres aujourd'hui. Ces paramètres sont liés à la localisation, ouais, de la zone géographique, l'étude hydrologique, l'étude géotechnique qui entre en jeu et qui définit ces paramètres. Je peux citer par exemple la solution technique qui est liée à la plus haute eau connue, ce qu'on appelle le PAHEC, qui,
d'accord,
est lié à la hauteur de la crue, qu'aujourd'hui on peut surélever. Le niveau d'accès au bâtiment, c'est-à-dire aujourd'hui le niveau du bâtiment, il est limité à la hauteur de la crue.
D'accord.
C'est-à-dire on accède à notre bâtiment avec une hauteur spécifique qui sera définie par l'étude hydrologique.
C'est quoi? C'est des espèces de construction sur pilotis, sur piliers? Comment on fait?
Sur piliers ou sur des fondations qui sont spécifiées avec des poteaux, et le plancher sera suspendu.
D'accord.
Et c'est pas basé sur le bon sol, exactement.
Ok, donc là on va éviter d'avoir un garage avec un sous-sol peut-être, hein. Ça évitera que ça se remplisse.
Exactement, parce qu'aujourd'hui on dit il y a deux paramètres qui définissent en fait la conception dans une zone inondable. Le premier paramètre, c'est la vitesse de l'eau, qui est géré par le drainage par des matériaux spécifiques.
Ouais.
Et le deuxième critère, c'est le critère que je viens de citer, c'est la hauteur. De l'eau connue. Exactement.
Ok. Le surcoût d'une construction comme ça, c'est on peut l'évaluer à peu près, non?
Aujourd'hui, on peut, parce que ça dépend de plusieurs paramètres.
Bien sûr.
Comme je viens d'évoquer le paramètre géotechnique hydrologique. Aujourd'hui, je peux dire, d'après notre expérience à Structure Ingénierie, on dit que le coût, c'est entre 15% et 70% du coût supplémentaire.
Ah oui, c'est large.
Exactement,
c'est une sacrée fourchette.
Ça dépend de plusieurs paramètres, comme je viens d'expliquer, par rapport à l'étude géotechnique, par rapport à l'environnement, oui, et de la localisation de l'ouvrage.
Très bien, merci monsieur Ben Malek. Je rappelle, vous êtes directeur technique du bureau d'études Structure Ingénierie.
Merci monsieur, bonne journée.
Merci beaucoup. Christian, on a fait le tour. Enfin, on a fait le tour. Évidemment vaste qui permettrait, enfin, on pourra en parler pendant encore plusieurs minutes, mais voilà, il fallait, on va dire, survoler tous les aspects de ces problèmes d'inondation que les Français ont pu rencontrer il y a quelques jours.
Tout à fait, merci Stéphane Cancela, donc d'Uni Promotion.
On va revenir dans un instant, Christian, avec notre nouveau rendez-vous. Durant quelques semaines, on va s'intéresser au gaz avec donc cette chronique le mois du gaz. Et puis on retrouvera aussi vos coups de cœur et bien entendu vos questions d'ici là. N'hésitez pas, vos questions bricolage maison déco au 32-16. On est là jusqu'à 8h avec Christian Pessé. À tout de suite.
RMC jusqu'à 8h.
Votre maison.
RMC
jusqu'à 8h.
Votre maison. François Sorel.
Christian Pessé.
Dans un instant, nous aurons Mourad au 32-16, qui est propriétaire d'une maison composée d'un sous-sol semi-enterré. Et il se pose des questions parce qu'il aimerait changer ses fenêtres en bois. Christian, vous allez pouvoir réviser pour essayer de répondre à sa question. Il est 8h moins le quart. Mais auparavant, donc, c'est notre nouveau rendez-vous sur RMC, notre bon plan maison. Et on va parler du mois du gaz. Et oui, Christian, le mois du gaz, on va évoquer pour ce premier numéro les Français, le gaz.
Oui, alors, vous savez, le gaz, je le disais tout à l'heure, c'est la deuxième énergie préférée des Français après l'électricité, largement majoritaire, donc pour se chauffer. Un foyer sur quatre se chauffe au gaz. Très important. Alors, historiquement, pourtant, le gaz domestique, ça servait pas vraiment à se chauffer, ça servait plutôt à s'éclairer. On l'a oublié, ça, et puis à faire la cuisine, évidemment, mais... les becs de gaz.
Et comment on les éclairait ? Il fallait que quelqu'un monte et mette une étincelle.
Au niveau des becs de gaz, c'était l'éclairage public, oui. Il y avait allumeur de réverbère.
Donc il y avait des personnes qui faisaient leur tournée.
Mais dans les maisons aussi. Donc par exemple dans les escaliers, vous aviez des manchons. Et lorsque vous allez dans des maisons anciennes, c'est-à-dire des maisons qui datent en gros d'avant la Seconde Guerre mondiale, eh bien regardez dans les escaliers. Souvent vous avez encore un conduit de gaz qui arrive et puis il reste plus que la coupelle sur laquelle s'accrochait donc l'appareil d'éclairage. Alors, jusqu'au début des années 60, eh bien, le gaz était produit par distillation de la houille. On parlait alors de gaz de ville et c'était stocké dans d'immenses réservoirs, les gazomètres, en périphérie des grandes agglomérations et pas forcément les plus âgés, mais notamment les Parisiens se souviendront des énormes gazomètres du nord de Paris qui étaient notamment installés dans la plaine Saint-Denis. C'était là des cuves énormes.
Qui servaient à alimenter toute la ville. Mais il y en a encore aujourd'hui,
j'imagine.
Comment est stocké le gaz aujourd'hui?
Le stockage, il est stocké aussi très largement de façon souterraine.
Donc il y a d'immenses cuves.
Dans d'anciennes mines, des choses comme ça, c'est pas seulement des cuves, c'est aussi des excavations qu'on étanche dans les profondeurs du sous-sol. Alors, à la fin des années 50, il y a la découverte du gaz naturel de lac dans les Landes, et ça va généraliser la distribution du gaz dans les grandes villes et pousser son utilisation pour le chauffage. Alors, le gaz est facile à transporter, il est facile à distribuer jusqu'au logement, donc des particuliers en ville comme en zone périphérique. Il permet d'alimenter des systèmes de chauffage confortables, notamment le chauffage central avec des chaudières. Alors, parallèlement, on a vu se développer le gaz de pétrole liquéfié, le butane, le propane. Alors, le butane, il est essentiellement utilisé pour la cuisson des aliments. Le propane, il sert aussi à chauffer. Alors, on a une grosse cuve à l'extérieur de chez soi et un camion vient le remplir périodiquement. C'est la solution, donc, la plus simple pour se chauffer au gaz, évidemment, en périphérie et notamment à la campagne. Alors, le gaz naturel, comme le gaz propane, sont des énergies extrêmement performante pour se chauffer, avec un net avantage pour le gaz naturel en matière de prix. Alors bien sûr, le gaz naturel, c'est une énergie fossile dont l'extraction a un fort impact carbone, donc c'est un petit peu montré du doigt. Mais il faut prendre en compte d'abord l'efficacité énergétique du matériau, du gaz, et puis il faut prendre en compte l'arrivée du gaz vert. Je consacrerai un sujet complet à cela. Le gaz vert, eh bien, ça commence à être significatif. dispositif. Alors c'est la méthanisation des déchets verts en milieu rural et des déchets ménagers également. C'est une émergence véritablement très importante qui va dégager le gaz de cet aspect gaz fossile avec l'impact sur la planète.
Mais en plus, quand il se consume, en fait, il n'y a presque pas d'émanation toxique, non, du gaz ?
Il y en a peu. C'est pas bien, mais il y en a quand même.
Il y en a quand même,
évidemment. Et puis surtout en milieu confiné, il y a aussi un petit peu d'humidité. Il faut faire attention à ça. Ça revient à mon propos de tout à l'heure. Bien ventilé. Alors on peut pas parler du gaz en faisant l'impact du risque d'explosion. C'est inhérent au produit, mais finalement les accidents sont très rares, mais ils sont spectaculaires. Alors évidemment, on parle beaucoup à ce moment-là des explosions. Ça concerne généralement le réseau plus que les appareils eux-mêmes. Et les installations dans les logements, ces installations dans vos logements, ils doivent impérativement faire l'objet d'un soin tout particulier par des installateurs patentés, des techniciens de maintenance agréés. Un point important en tant que particulier, ne touchez jamais à vos appareils à gaz, ça se bricole pas, le gaz. Respectez bien la réglementation, par exemple le fait que les canalisations doivent être peintes en jaune. Hein, ça c'est quelque chose qui n'est absolument pas vraiment respecté, et pourtant c'est une règle fondamentale puisque ça permet immédiatement de voir où sont les canalisations de gaz. Alors je rappelle pour finir l'obligation réglementaire d'un entretien annuel des chauffages au gaz et notamment des chaudières par un professionnel qualifié, certifié. La sécurité en dépend, votre sécurité en dépend, mais aussi des économies d'énergie, parce que un chauffage bien entretenu, c'est un chauffage qui consomme peu et qui est confortable.
Voilà pour ce premier numéro du mois du gaz. Et notez que Bruno Gall, qui est le président des professionnels du gaz, sera l'invité de notre rendez-vous maison samedi prochain, donc le 7 décembre.
Le bon plan maison avec PG Professionnel du gaz et le certificat de conformité qui est et reste obligatoire pour une installation gaz en 2020.
Christian Pesset, oui. Que diriez-vous d'accueillir Mourad maintenant au 32-16?
Mais bien sûr. Bonjour Mourad.
Bonjour.
Bonjour Christian, bonjour François.
Bienvenue Mourad sur RMC.
Merci.
Alors, votre maison, ça va, vous en êtes content?
Oui, ça va. Bon, il fait un petit peu froid quand même.
Ah, vous êtes dans l'Indre, c'est ça?
Dans l'Indre, à Déol exactement.
D'accord. Alors, vous écoute, quelle était votre question?
Alors, j'ai fait une acquisition d'une maison donc en 2017. Une maison de 75. J'ai pu isoler les combles et le plancher. Hein.
C'est déjà bien.
Voilà. Donc là, il me reste tout ou pas, je ne sais pas encore. Donc les menuiseries, en sachant qu'elles sont double vitrage, mais anciens.
Oui.
Donc ma question, ça serait, est-ce que ça vaudrait le coup de les remplacer ou pas?
Alors moi, ce que je commencerais à regarder, c'est quel est l'état des joints autour des ouvrants. Parce que c'est la première des choses que vous pouvez remplacer. En général, c'est ceux qui s'usent. Alors vous me dites que ce sont des fenêtres en bois, mais soit, il y a des fenêtres en bois extrêmement performantes. Vous avez des fenêtres donc à un certain âge. Moi, je pense que déjà, si vous traitiez bien les joints en périphérie, vous allez avoir l'essentiel, je dirais, de l'amélioration en matière thermique. Moi, je me pencherai pas forcément en priorité sur les fenêtres, mais plutôt sur les murs, hein, parce que c'est par là que l'essentiel des calories fuit. C'est pas tellement par les fenêtres. Remplacer des fenêtres dans des murs qui sont pas isolés, je dis souvent, c'est remplacer un timbre-poste dans un courrier, quoi. C'est-à-dire, ça représente à peu près. Voilà. Donc, commence à isoler plutôt. Alors, soit par l'extérieur, si vous le pouvez, soit par l'intérieur. Donc, votre maison, l'intérieur, ça bouffe un peu d'espace. Donc, évidemment, c'est pas forcément l'idéal, mais c'est moins cher qu'une isolation par l'extérieur. Et surtout, vous allez bénéficier de beaucoup d'aides. Alors, je ne vais pas vous dire combien aujourd'hui, parce que la loi de finances n'est pas encore votée. Il va falloir attendre le 31 décembre. Mais vous allez avoir beaucoup d'aides sur le remplacement, sur l'isolation des parois, alors que vous en aurez très peu sur les fenêtres, puisque vous avez déjà isolé vos combles, vous avez déjà isolé vos planchers bas. Donc ça, c'est une bonne chose. Et ensuite, la priorité, c'est plutôt les murs que les fenêtres. D'autant que vous avez quand même des fenêtres double vitrage à l'argon qui doivent être quand même assez performantes.
Double vitrage R, je crois. C'est double vitrage, mais ancienne en fait. Hein.
Oui, mais même si c'est ancien, c'est quand même. Voilà, je vous dis les joints, on peut en l'étanchéité de votre fenêtre et ensuite l'isolation des murs.
D'accord.
Voilà.
Entendu. Bien, merci à vous.
Mourad, merci pour votre appel. Et tenez-nous au courant hein, de cette rénovation. Dites-nous.
Ben avec plaisir. Avec plaisir.
Donnez-nous des nouvelles.
Vous avez déjà une idée de ce que ça va vous coûter ou pas, Mourad?
Absolument pas. J'ai fait des devis pour les menuiseries, mais pas du tout. Je n'avais pas pensé du tout.
Eh bien, on peut commencer par là.
Voilà.
Est-ce que Mourad a droit à des aides?
Justement, on va le savoir. On bien sûr qu'il y a des aides. Aujourd'hui, c'est 30% sur les matériaux comme sur la main-d'œuvre, mais sous forme de crédit d'impôt. À partir du 1er janvier, ça va être des primes directes distribuées par l'ANA.
Mourad, donc renseignez-vous bien, hein, ça vaut le coup là.
Tout comme la santé, merci.
Merci beaucoup.
Allez voir
merci
les conseillers FER, ou regardez déjà le site www.fer.fr.
On en parlait il y a quelques semaines de cela. Si tout comme Mourad, vous voulez joindre Christian PC, c'est simple, ça se passe au 32-16, ou via l'appli RMC et Direct Studio. Et Christian, pour terminer ce rendez-vous maison, c'est votre coup de cœur ou coup de gueule.
Coup de cœur, mais plutôt coup de cœur justement que coup de gueule.
Ouais.
Alors, coup de cœur pour la sanction qui a été infligée par la CNIL à une société spécialisée dans la rénovation énergétique. Je vous annonçais il y a 15 jours que les pouvoirs publics avaient décidé de sévir contre les sociétés spécialisées dans la rénovation énergétique qui vous harcèlent, surtout téléphoniquement, et font un usage irrégulier de vos données personnelles. Eh bien, la CNIL, la Commission Nationale Informatique et Liberté, vient d'infliger une amende de 500 000 euros à cette entreprise spécialisée dans l'isolation à 1 euro à titre de démarchage téléphonique illégal. Il est reproché notamment à cette société de ne pas avoir respecté les droits de la personne sollicitée dans le cadre d'opérations commerciales. En clair, il y a quelqu'un qui s'est plaint parce qu'il était harcelé par téléphone. Ouais. Et il a dit, j'en veux plus, je veux plus de vous. Et les gens continuaient à rappeler.
Ouais.
Alors, la société incriminée avait continué de solliciter donc le plaignant et divers griefs ont été relevés, parmi lesquels des indications sur l'âge, c'est-à-dire qu'ils en ont retrouvé des fiches. On mettait l'âge, plutôt si les gens avaient plus de 80 ans, par exemple. Il y avait des notes sur c'est un grincheux, il faut continuer, etc. Alors, il y a aussi le principe qui était annoncé, vous savez, je vous l'avais dit, du name and shame, c'est-à-dire dénoncer pour faire honte, et ça avait été annoncé par le gouvernement. Eh bien, ça conduit la CNIL à indiquer clairement qu'il s'agissait de la société Futura International, je n'hésite pas à lui faire de la bonne publicité, qui est basée en région parisienne. Ça va peut-être en refroidir certains de continuer ces pratiques d'éco-délinquance qu'il convient absolument d'éradiquer. Ce qui ne veut pas dire que les isolations à 1 euro ou les chaudières à 1 euro, ça ne veut pas dire que c'est une arnaque. Ça veut dire qu'il faut faire attention à ce qui vous est proposé. Et surtout, si on vous téléphone, eh bien, la première des choses, c'est de raccrocher et ensuite, éventuellement, de se plaindre à la CNIL. 500 000 euros, c'est une prune quand même qui fait mal pour une entreprise.
Ça, c'est clair. Christian PC, on se retrouve la semaine prochaine pour notre rendez-vous maison. 7h-8h et dans un instant, c'est Christian Ricard qui prend le relais pour la forme et la santé. Bonjour Christian.
Bonjour à tous. Bonjour Christian. Grande forme aujourd'hui.
Je parlais du renouvellement de l'air. J'ai pensé à toi. Hein.
Très très bien.
Les douleurs musculaires de Christian PC, mon cher docteur, qu'est-ce qu'on peut faire?
Ça va, moi j'ai pas dit.
Non, il n'y a pas de problème.
Non. Il a des douleurs neuronales.
Justement,
c'est récurrent.
Est-ce qu'il doit entretenir sa mémoire, Christian PC?
Oui. Non, mais Christian PC a une très très grande mémoire.
Ah bah oui,
bien sûr.
Une mémoire d'éléphant.
Oui.
C'est vrai.
Oui.
D'éléphanto.
D'éléphanto. Et d'ailleurs,
d'éléphanto et tard également. Hein.
On va en parler dans un instant. Comment structurer et bien entretenir sa mémoire? Ce sera l'un des sujets de ce rendez-vous santé qu'on retrouve après la météo et les infos de 8h sur RMC. À tout de suite.